Vous écoutez, on lit pour vous.
Les thérapies de conversion, c'est un crime, pas de l'aide. Un texte de la rédaction paru sur le site de la Fondation Émergence. Les thérapies de conversion, interdites au Canada depuis 2021, restent une menace en raison des préjugés persistants. Pour prévenir, déceler et intervenir, la Fondation Émergence lance une tournée de formation. Les thérapies de conversion, c'est un crime, pas de l'aide, qui se déploiera dans l'ensemble des régions administratives du Québec. Une tournée de formation pour mettre fin aux thérapies de conversion. Pour y mettre un terme, la Fondation Émergence lance une tournée de formation. Les thérapies de conversion, c'est un crime, pas de l'aide, qui se déploiera dans l'ensemble des régions administratives du Québec. Une formation essentielle pour les professionnels. Cette initiative vise à sensibiliser et informer le grand public et en particulier les professionnels des secteurs de la santé, des services sociaux, des forces de l'ordre et de la justice. En renforçant leur connaissance sur les thérapies de conversion et leurs effets néfastes, les personnes formées seront mieux préparées à les prévenir, à les déceler et intervenir efficacement auprès des victimes. Bien que les thérapies de conversion soient officiellement interdites et considérées comme criminelles, les victimes et le grand public ignorent souvent leur statut légal. Ces pratiques cherchent à nier l'identité des personnes LGBTQ+, en tentant de changer leur orientation sexuelle, leur identité ou leur expression de genre. Cela cause des souffrances profondes, souvent invisibles, mais bien réelles. Il est urgent d'agir, explique Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Cette initiative est soutenue par le gouvernement du Québec, secrétariat à la condition féminine. Les thérapies de conversion, c'est quoi? Les pratiques de thérapie de conversion visent à modifier l'orientation sexuelle d'une personne pour la rendre hétérosexuelle, à changer son identité de genre pour qu'elle devienne cisgenre ou à ajuster son expression de genre afin qu'elle corresponde au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Ces pratiques ont des effets néfastes sur les personnes LGBTQ+, les stigmatisent davantage et portent atteinte à leur égalité ainsi qu'à leur dignité. Bien que l'idée des thérapies de conversion ne soit pas nouvelle, aucune de ces tentatives n'a jamais prouvé son efficacité. Au contraire, les personnes qui y sont soumises subissent souvent de lourdes conséquences sur leur santé mentale et leur estime de soi. Les thérapies de conversion, un crime. Le 8 décembre 2021, le Code criminel canadien a été modifié afin d'ajouter plusieurs infractions liées aux thérapies de conversion. Il est désormais interdit de soumettre une personne à une thérapie de conversion, organiser le déplacement d'un enfant à l'étranger afin qu'il y subisse une thérapie de conversion, promouvoir ou faire la publicité des thérapies de conversion, tirer un avantage matériel, notamment financier, de la prestation de telle thérapie. Au Canada, les thérapies de conversion sont donc reconnues comme des actes criminels passibles dans certains cas de peine d'emprisonnement. L'importance de la sensibilisation. Malheureusement, criminaliser une pratique ne garantit pas sa disparition. Les thérapies de conversion risquent de persister tant que la diversité sexuelle et de genre sera perçue comme un trouble à corriger. De plus, certaines professionnels peuvent ignorer à la fois les dangers et l'illégalité de ces pratiques. C'est pourquoi la sensibilisation et l'information, comme celles menées par la Fondation Émergence, sont essentielles pour mettre définitivement fin aux thérapies de conversion. Pour prévenir, déceler et intervenir, demandez notre formation. Se former sur les thérapies de conversion est essentiel pour comprendre l'origine de ces pratiques, identifier les différentes formes de thérapies de conversion, intervenir de manière appropriée en cas de besoin, orienter les victimes et survivantes vers les ressources adaptées, sensibiliser aux dangers des thérapies de conversion et à l'importance de leur éradication, contribuer à la création d'un environnement plus inclusif et respectueux pour les personnes LGBTQ+. Demandez notre formation « Contrer les thérapies de conversion » via notre page web fondationemergence.org/contact. C'était « Les thérapies de conversion, c'est un crime, pas de l'aide », un texte de la rédaction paru sur le site de la Fondation Émergence.
En 2025, le recul des droits des personnes LGBTQ+ se poursuit. Un texte de la rédaction paru sur le site de la Fondation Émergence. En 2024-2025, les droits LGBTQ+ reculent dans plusieurs pays à travers des lois discriminatoires, une hausse des violences, des discours haineux et une baisse de l'acceptation sociale. Face à ce backlash mondial, la mobilisation des personnes alliées est essentielle. En 2024, la campagne de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie s'est articulée autour du slogan « Dénoncer les idées dépassées ». Elle visait à tirer la sonnette d'alarme face au recul préoccupant que subissent actuellement les personnes LGBTQ+. Après plusieurs décennies de progrès, les reculs des dernières années peuvent surprendre. Ce phénomène de backlash ou effet de ressac se manifeste à l'échelle mondiale par des reculs tant sur le plan légal que social pour les personnes LGBTQ+. Recul dans les droits LGBTQ+. Des reculs légaux sont observés dans de nombreux pays à travers le monde. Il peut s'agir de l'adoption de nouvelles mesures restreignant les droits des personnes LGBTQ+, ou du démantèlement de lois et d'initiatives existantes qui leur offraient protection. En voici quelques exemples. États-Unis. Depuis janvier, plusieurs décrets présidentiels ont entraîné d'importants reculs, notamment l'interdiction des personnes transgenres dans l'armée, la suppression de soins d'affirmation de genre pour les mineurs dans certains États, ainsi que le retrait d'initiatives en lien avec l'équité, la diversité et l'inclusion, EDI. Géorgie. En septembre 2024, le Parlement géorgien a adopté une loi intitulée « Sur les valeurs familiales et la protection des mineurs ». Dénoncée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, cette loi impose des restrictions discriminatoires à l'éducation, au débat public et au rassemblement portant sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Elle assimile les relations homosexuelles consenties à l'inceste et interdit la reconnaissance légale des couples de même sexe ainsi que des personnes trans. Ghana. En 2024, le Parlement ghanéen a durci sa législation en adoptant à l'unanimité une loi qui prévoit des peines de prison pour les relations homosexuelles et pour la promotion, le parrainage ou le soutien intentionnel d'activités LGBT+. Russie. En 2023, la Cour suprême russe a interdit les activités du mouvement international LGBT+, en le classant comme mouvement extrémiste, permettant ainsi de criminaliser la défense de droits LGBTQ+. Hongrie. En mars 2025, le Parlement hongrois a interdit les rassemblements promouvant ou affichant toute déviation par rapport au sexe d'une personne à la naissance, ainsi que le changement de sexe et l'homosexualité. Cette loi interdit de facto les marches des fiertés, prévoit des amendes pour les participants, participantes et des sanctions pénales pour les organisateurs, organisatrices. Royaume-Uni. En décembre 2024, les bloqueurs de puberté ont été bannis indéfiniment. En avril 2025, la Cour suprême britannique a statué que la définition légale d'une femme est basée sur le sexe biologique et qu'une femme trans qui a fait une transition légale n'est pas pour autant considérée légalement comme une femme. Augmentation des violences. Augmentation des crimes haineux en lien avec l'orientation sexuelle au Canada. Au Canada, le nombre de crimes haineux liés à l'orientation sexuelle reportés par la police à Statistique Canada a plus que quadruplé en 5 ans. Il est passé de 186 en 2018 à 860 en 2023. Aux États-Unis, un rapport du FBI annonce qu'en 2023, les signalements de crimes haineux visant des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre sont en augmentation. En Europe, un rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne indique une augmentation de la violence, du harcèlement et de l'intimidation. Discours anti-LGBTQ+. Les discours LGBTQ-phobes se normalisent avec des discours alarmants venant de personnes influentes. Des campagnes de désinformation circulent sur Internet, notamment sur les soins d'affirmation de genre. Selon un rapport de l'Observatoire européen des médias numériques publié en 2023, la désinformation portant sur les communautés LGBTQ+ est la plus répandue. ILGA Europe note une augmentation des discours haineux. Par exemple, au Portugal, les discours de haine anti-LGBTQ+ en ligne ont augmenté de 185% entre 2019 et 2022, contre 130% en Espagne. Recul de l'acceptation de la diversité sexuelle et de genre. Selon un sondage de l'Ipsos qui compare les réponses des personnes en 2021 et en 2023 dans 30 pays, au Canada, le soutien pour les couples de même sexe a diminué. De plus, la proportion de Canadiens, Canadiennes qui ne sont pas d'accord avec le fait que les couples de même sexe devraient avoir les mêmes droits d'adopter des enfants que les couples hétérosexuels a augmenté. Entre 2017 et 2024, le niveau de malaise des jeunes Québécois québécoises face à l'homosexualité de leur meilleur ami a doublé. Nous ne pouvons pas prendre les droits LGBTQ+ pour acquis. La lutte contre les LGBTQ-phobies doit continuer non seulement pour faire avancer la cause, mais aussi pour éviter des reculs. Les reculs légaux peuvent prendre la forme de lois qui sont passées, mais aussi de retrait de mesures qui protégeaient les personnes LGBTQ+. En plus des reculs légaux, on constate une augmentation des violences, des discours haineux ou de désinformation et un recul dans l'acceptation de la diversité sexuelle. Face à ces reculs, nous avons besoin des personnes alliées pour contrer ce mouvement de haine. C'était En 2025, le recul des droits des personnes LGBTQ+ se poursuit. Un texte de la rédaction paru sur le site de la Fondation Émergence.
Des outils pour les parents. Un texte de Véronique Larocque paru le 4 mai 2025 dans la presse. Les cellulaires seront interdits dans les écoles dès la rentrée, a annoncé Québec dernièrement. Une décision saluée par la psychoéducatrice Sarah Hamel et l'orthophoniste Julie Parent, qui viennent de lancer « Les écrans et nos enfants ». Dans leur livre, les deux spécialistes survolent les impacts, majoritairement négatifs, des cellulaires et autres écrans chez les 0 à 18 ans. Sur un ton bienveillant et avec humour, elles offrent des outils aux familles qui souhaitent modifier leurs habitudes. Entrevue. La première partie du livre est consacrée aux impacts des écrans sur le développement des enfants de 0 à 18 ans. Vous vulgarisez de nombreux résultats de recherche. Pouvez-vous résumer le constat qui en ressort? Julie Parent. La littérature est sans appel par rapport au fait qu'il y a des impacts en fonction de l'exposition aux écrans, de l'intensité, de la fréquence, de l'âge de l'enfant sur les sphères langagières, sur le développement de la communication, sur la relation parent-enfant. Ce que ça fait, les écrans? Ça isole les enfants et ça limite les interactions sociales. Sarah Hamel. Dans le livre, on explique quelles sont les conditions favorables pour soutenir le développement optimal d'un enfant. Les écrans, ça vient gober du précieux temps. Le jeu libre, c'est un des principaux moteurs de développement, mais les enfants y sont de moins en moins exposés. Julie Parent. Il y a aussi la question de l'accès aux livres et du plaisir de lire. On sait que de génération en génération, les gens lisent de moins en moins et aiment de moins en moins lire. Ça a une incidence sur le langage et même sur le potentiel intellectuel des gens. Ce qu'on veut, c'est redonner du temps à nos enfants pour qu'ils puissent faire ces activités qui sont saines pour leur développement. Voyez-vous d'un bon œil l'interdiction du cellulaire à l'école dès la rentrée? Sarah Hamel, à 100%. Même si dans notre livre, on a une approche de réduction des méfaits et non d'abstinence. Nous, on pense que c'est impossible de développer de saines habitudes avec une chose à laquelle on n'est jamais exposé. C'est correct que les ados puissent être exposés à des écrans. Mais pour qu'ils puissent développer de saines habitudes, il faut qu'il y ait une notion d'encadrement. C'est quelque chose qui n'est pas possible à l'école. Souvent, les jeunes vont utiliser les appareils pendant les pauses et les périodes de repas. À ce moment-là, la surveillante n'est pas capable d'encadrer l'utilisation des écrans de toute la gang. Dans ce contexte-là, on n'a pas le choix de protéger le cerveau de nos enfants. On ne peut pas leur demander de faire les bons choix parce qu'ils n'ont pas la maturité nécessaire pour faire ces bons choix-là. Julie Parent. Et même en ayant la maturité nécessaire. On est des adultes et il faut trouver des stratégies pour s'auto-réguler. Le cellulaire, c'est tellement addictif. À la maison, quels sont les premiers gestes à faire si on veut changer ses habitudes? Sarah Hamel, on propose d'y aller en douceur. On ne suggère pas de tout sacrer dans les vidanges. On est très nuancé. On propose plein de solutions potentielles. Par exemple, de choisir le type de contenu. Si on décide d'utiliser les écrans parce qu'on a de la broue dans le toupet, si on choisit du contenu qui est de meilleure qualité, qui est moins surchargeant pour le cerveau, on diminue les méfaits. Julie Parent. C'est également notre propre utilisation qu'on doit regarder en premier. Quelle est notre relation avec cet objet-là? C'est bien documenté que les enfants vont apprendre par mimétisme. L'utilisation que fait le parent de son téléphone cellulaire va être prédictive de celle que ses enfants vont en faire plus tard. Les parents doivent parfois composer avec les crises de leur enfant lorsqu'ils reprennent la tablette ou éteignent la télévision. Pour les aider, vous proposez notamment une technique d'intervention, la prévision météorologique émotionnelle. En quoi consiste-t-elle? Sarah Hamel. C'est une technique qui est vraiment à appliquer à toutes les sauces. Autant je suis anti-technique dans la vie, parce que c'est rare qu'une technique ce soit one size fits all, celle-là c'est l'exception qui confirme la règle. La plupart des parents sont bons pour annoncer à l'enfant ce qui va arriver. Dans 5 minutes, on va fermer la télé. On annonce ce qui va se passer à l'extérieur du corps de l'enfant. Moi, j'invite les parents à aller une coche plus loin et à prévenir l'enfant de ce qui pourrait se passer à l'intérieur de son corps. Ça se pourrait que ça te fasse de la peine. C'est l'équivalent de donner un petit vaccin émotionnel. On donne une micro-dose de l'émotion que l'enfant pourrait vivre. Une fois qu'il va être face à cette émotion-là, il va avoir eu le temps de se préparer. Même les choses désagréables, quand c'est prévisible, c'est plus facile à encaisser. Les données sur les impacts des écrans sont préoccupantes. Comme vous l'indiquez dans l'ouvrage, lire toutes ces informations peut être confrontant. Pourquoi? Julie Parent, c'est normal que ça génère des émotions qui sont confrontantes, de la culpabilité, de l'angoisse. Quand on se sent coupable, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'on voudrait qui se passe différemment pour s'aligner avec nos valeurs. Dans la deuxième partie du livre, on accompagne les parents pour qu'ils trouvent leur propre formule. Nous, on n'est pas là pour dire quoi faire. On sème des graines et on pose des questions de réflexion. C'était « Des outils pour les parents », un texte de Véronique Larocque, paru le 4 mai 2025 dans La Presse.
Enfin, un sursaut salutaire. Une chronique de Denis Daniel Boulay parue le 17 avril 2025 dans le magazine Fugue. Peut-être que le 17 mai 2025 marquera un tournant pour nos communautés en termes d'affirmation. Que nos voix se fassent entendre et suscitent plus de solidarité aussi bien de la part de la population que de nos décideurs. Après tout, le Québec et le Canada sont attachés aux droits de la personne, ainsi qu'à la justice et à l'égalité. On a parfois tendance à l'oublier quand il est question d'immigration, ou encore pour celles et ceux qui cherchent à demander la protection du Canada. L'effet Trump, diront certains, certaines. Effectivement, un tsunami s'est abattu au Sud depuis l'élection de Donald Trump. Et parmi les décisions qu'il prend, certaines ont déjà des conséquences désastreuses pour les personnes LGBTQ. Sans compter que ces décisions donnent de l'assurance à d'autres gouvernements pour, eux aussi, restreindre les droits et la protection des personnes LGBTQ. La Fondation Émergence avait déjà sonné le signal d'alarme en 2024 avec sa campagne autour de la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, concernant une éventuelle réélection de Trump. Pourtant, bien avant la publication du rapport du Gris Montréal sur le recul de l'acceptation des personnes LGBT par les jeunes, ou encore d'interdire sur les messages haineux reçus au début de 2025, tous les signaux étaient au rouge. Depuis quelques années, les discours anti-LGBTQ se sont radicalisés et prolifèrent sur les réseaux sociaux. Ces mêmes discours sont repris par de nombreux gouvernements européens, de façon plus élaborée, mais restent tout aussi dangereux, et cela ne date pas de l'élection présidentielle américaine. Au Québec, à la fin 2023, les tergiversations du gouvernement sur comment répondre à l'opposition de groupes réactionnaires au sujet des toilettes non genrées et de l'accès aux soins pour des jeunes qui souhaitaient transitionner aurait demandé une réponse plus nette, plus claire, plus ferme. D'autant plus que le même mois, ce gouvernement dévoilait aussi, par la voix de la ministre Martine Biron, en charge du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour la période de 2023-2028. Une contradiction pour beaucoup. Pour ne pas polariser une question épineuse, le gouvernement a préféré créer un comité des sages, chargé de produire un rapport guidant le gouvernement dans ses choix. Le rapport de ce fameux comité devrait être rendu public en mai. Il est de bon ton de dire aujourd'hui de la part des organismes communautaires qu'ils se sont opposés à la création de ce comité, chacun rappelant une ou deux déclarations données par-ci, par-là, mais disons que les voix étaient un peu clairsemées et n'émanaient pas d'une réponse organisée et collective, avec, par exemple, une déclaration de l'ensemble de tous les organismes communautaires LGBTQ du Québec demandant au gouvernement de ne pas aller de l'avant avec le comité des sages. Nous n'avions pas le rapport de force suffisant à ce moment-là pour faire fléchir le gouvernement, m'ont déclaré sous le sceau de la confidentialité certains responsables d'organismes. Nous ne pouvions aller plus loin, ont-ils ajouté, et nous avons préféré collaborer en espérant que nous serions écoutés par le comité des sages. Une stratégie qui se tient. Il n'en reste pas moins que cela exprime que les organismes communautaires n'arrivent plus à trouver un consensus quand des enjeux, qui les touchent de plein fouet, se présentent. Les raisons de ce fameux manque de consensus sont multiples. Des idéologies radicales de certains, certaines, d'engagement dans d'autres causes qui suscitent des polarisations au sein même de nos communautés, ou encore la peur de perdre des subventions, d'une apathie comme quoi tout va bien, mieux ici, au Québec, ou encore d'un malaise ressenti face à la question des jeunes trans. Les raisons sont multiples. Espérons que le grand rassemblement du 17 mai, organisé par la Fondation Émergence en collaboration avec Fierté Montréal, nous donne l'heure juste sur l'état de notre pouvoir dans la protection et la promotion de nos droits. Les personnes alliées. Il est un fait historique que, depuis la naissance des luttes LGBTQ, nous avons dû compter sur nous-mêmes. Mais les plus grandes avancées n'ont pu se faire qu'avec le soutien et la solidarité de ces fameux alliés. Que ce soit des individus qui font partie de la population, que des grandes centrales syndicales, du monde communautaire et même parfois d'institutions privées. Comme me le disait Réal Ménard quand il était député, les gouvernements sont parfois aveugles, mais ils ne sont pas sourds. En étant alliés, ce n'est pas seulement nos communautés qu'ils et elles défendent, mais une certaine idée des droits de la personne. Aux États-Unis, ce sont aux transgenres que l'on s'en prend, mais on le voit, ce sont aussi aux droits des femmes, aux immigrants menacés d'expulsion, même si certains ont un statut légal. En se déplaçant le 17 mai, ces fameuses personnes alliées ne soutiendront pas que leur fils, leur nièce, l'enfant trans d'un voisin ou encore des collègues ce jour-là. Elles affirmeront aussi fièrement leur attachement à l'état de droit, aux valeurs défendues par l'ensemble de la population et qui touchent les dignités de chacun et de chacune. Ce coup de semonce donné par Trump vient peut-être de nous réveiller. Nous devons rester tous vigilants, vigilantes et solidaires et nous retrouver unis, place des festivals, le 17 mai 2025. C'était enfin un sursaut salutaire. Une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 17 avril 2025 dans le magazine Fugue.